toutes et à tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter M l'été. En ce 28 juin 2017, ravie d'être là une nouvelle fois avec vous. Alors encore une fois, je suis bien entourée, puis j'en ai même deux en studio avec moi aujourd'hui. On va commencer l'émission avec quelques nouvelles bien sûr, et puis nous poursuivrons avec Serge Bradet qui viendra nous présenter une chronique historique. Il y aura également un entretien avec Caroline Soriol, directrice générale des Petits Frères, au sujet d'une campagne de solidarité avec les aînés aimants jusqu'au bout. Il sera également question de littérature avec Gérald Cousineau, que j'accueille ici pour la première fois cet été, et il est en studio. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Et bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Et puis nous finirons l'émission avec une entrevue au téléphone avec Charles Belmar, ce professeur titulaire au département d'économie de l'Université Laval, qui a révélé qu'une personne en fauteuil roulant a 54% moins de chances d'être convoquée en entrevue qu'une personne sans handicap, ce qui a fait réagir pas mal de monde. Alors il sera intéressant de parler avec M. Belmar. Alors, quelques nouvelles pour commencer cette émission M l'été. D'abord, Adib Al-Khalidé qui veut battre des records pour la Fondation Rêve d'Enfant. L'humoriste Adib Al-Khalidé se joint à la Fondation Rêve d'Enfant comme porte-parole de la deuxième campagne estivale de Couche-Tard pour aider davantage d'enfants gravement malades à réaliser leurs plus grands rêves. Par l'entremise d'une vidéo, l'humoriste invite les Québécois à se joindre à lui dans une saine compétition qui vise à battre le montant de 150 000 dollars récoltés l'an dernier. En 2016, le porte-parole était l'humoriste Jérémy Demey. Pour participer, il suffit de se rendre dans un magasin Couche-Tard d'ici le 4 juillet prochain, puis d'ajouter 2 dollars à sa transaction. En échange, les participants obtiendront un coupon échangeable contre une slush gratuite à leur prochaine visite. Les dons seront remis à Rêve d'Enfant afin de soutenir la mission de la Fondation. Ce geste tout simple contribuera à aider une vingtaine d'enfants atteints d'une maladie grave à réaliser leur plus grand rêve. L'offensive se déploie sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de la Fondation, en plus des 500 affiches distribuées dans les succursales Couche-Tard du Québec. Moins réjouissant, une entreprise qui emploie des personnes handicapées freinée dans son expansion. Le groupe TAC, T-A-Q, qui permet à près de 200 personnes qui ont des limitations physiques ou intellectuelles d'accéder au marché du travail, espère engager une centaine de nouveaux employés d'ici 2020. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise aura toutefois besoin davantage de financement d'Emploi Québec. Comme les employés du groupe TAC sont moins productifs que la moyenne, le gouvernement finance près du tiers de leur salaire. La réponse officielle d'Emploi Québec, c'est qu'on est dans une région où le taux de personnes handicapées à l'emploi est supérieur à d'autres régions, ce qui fait qu'on préfère investir dans d'autres régions, indique Gabriel Tremblay, qui est directeur général du groupe TAC. Selon lui, 9 500 personnes handicapées sont prestataires d'aide sociale dans la région de Québec. Est-ce que c'est moi qui devrais leur dire, dit ce monsieur Tremblay, le directeur, tu es né dans la mauvaise région, déménage dans une autre région. Ça n'a pas de bon sens. Ces personnes-là ont le droit de travailler comme toutes les autres. Pour les employés, leur travail représente bien plus qu'un salaire. C'est une façon d'être actif dans la société. Le groupe TAC emploie des gens qui ont des limitations physiques ou intellectuelles. Avec 400 clients, le groupe TAC n'arrive plus à suffire à la demande. L'entreprise offre des services de sous-traitance pour effectuer divers travaux de manutention, notamment de l'emballage, de l'étiquetage et de l'entreposage. Le directeur général espère qu'Emploi Québec révisera sa position pour que le groupe TAC atteigne son plein potentiel. Sylvain Lemay, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il a été nommé membre de la Commission des droits et de la personne et des droits de la jeunesse. Sylvain Lemay, coordonnateur et responsable de l'accueil et du soutien aux étudiants en situation de handicap au service à la vie étudiante. Sylvain Lemay a été nommé membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par l'Assemblée nationale le 16 juin dernier. Il sera assermenté le 12 septembre prochain. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de modestie que j'entends j'entends accomplir mon mandat d'une durée de 5 ans, lance Sylvain Lemay. La composition de l'équipe de commissaires reflète bien la diversité sociale et ethnoculturelle de la société québécoise. Ses membres possèdent également des expertises variées. Lauréat en 2014 du concours « Mon parcours, ma carrière » remis par le Comité d'adaptation à la main-d'œuvre pour personnes handicapées, Sylvain Lemay est lui-même atteint d'une amyotrophie musculaire de type 3, une maladie dégénérative neuromusculaire qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Quant à l'UQAM, elle soutient ses étudiants en situation de handicap depuis 1985. Elle est pionnière dans ce domaine. Elle s'est dotée en 1987 d'une politique institutionnelle portant sur l'intégration de ses étudiants. Ouverture d'un terrain de baseball spécial pour les joueurs ayant un handicap. C'est un texte d'Émilie Pelletier. Jouer au baseball quand on est en fauteuil roulant ou lorsqu'on est atteint de trisomie, c'est tout à fait possible. Et pour ce faire, Champ de rêve a toutefois dû adapter quelque peu les règles du jeu, mais surtout le terrain situé à Moncton. Le tout premier terrain de baseball accessible à tous en Atlantique a été inauguré lundi matin au Sportplex de Moncton. L'équipe derrière le programme Champ de rêve travaille depuis des années sur le projet. C'est très important parce que ces enfants-là sont spéciaux. Et puis je pense qu'ils ont le droit d'avoir la chance d'avoir quelque chose qui leur appartienne, soutient Charline Alain Godin, instigatrice du projet. Aménager un tel terrain fait de matériaux synthétiques et comportant des accès adaptés a un coût. Ce sont entre autres les gouvernements municipal, provincial ainsi que la Fondation pour les enfants, le choix du président, qui se sont partagés la facture de 500 000 $. Selon Mme Alain Godin, le baseball est un sport qui se modifie aisément pour répondre aux besoins spéciaux des uns et des autres. C'est que tu peux choisir d'avoir les règlements ou de les ignorer. De notre côté, ça ressemble à du baseball, mais on ignore pas mal les règles. Lance celle-ci avec le sourire. Amélie Blanchard, une jeune femme trisomique, se réjouit de pouvoir continuer de jouer pour une troisième année consécutive, mais sur un terrain pensé pour elle. C'est un beau support pour tous ces enfants-là. On cherche toujours de belles activités à faire et des endroits sécuritaires, note son papa, Michel. Du stationnement au gradin, en passant par le marquage sur le terrain même, tout a été pensé pour accommoder des joueurs aux limitations diverses. Pour la première fois, on a des estrades pour les parents ou n'importe qui veut venir nous voir. C'est pas mal spécial, déclare Jamie Vautour, qui est ravi que les fans aient eux aussi un espace réservé aux abords du terrain spécial. C'est un passionné d'histoire, alors forcément on l'a fait venir pour nous parler notamment de la naissance du Canada. Monsieur Serge Bradet, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, vous-même, petit.
Mais oui, ça va bien, vous êtes en train de vous battre avec votre petit chronomètre.
Ma minuterie. Parce que ça me stresse de ne pas savoir. Même si vous me faites des signes, tout ça, ça me...
Alors c'est comme les œufs, ça va sonner?
Oui, ben, c'est ça. Non, ça
c'est-à-dire
pas.
Que
ça
là, on pas. Va avoir un Serge mollet dans à peu près 4-5 minutes et oui. Un Serge dur dans 10.
À peu près ça.
Serge Bradet, c'est avec beaucoup de plaisir que les auditeurs et moi-même, on vous retrouve aujourd'hui. Mm-hmm. Donc pour cette première chronique d'histoire, mm-hmm. présentez-nous ce dont vous allez nous parler.
Oui, alors comme c'est samedi, c'est le 150e anniversaire du Canada. Je vais vous parler, je vais faire deux chroniques. La première aujourd'hui, la deuxième, je pense, c'est le 12 juillet. Mm-hmm. Aujourd'hui, donc, je vais parler de la période avant 1867.
Oui.
Et le 12 juillet, je vais parler après 1867.
D'accord. Nous, on vous suit.
Je commence.
Les yeux fermés.
D'accord. Alors, avant 1867, moi, je commence de 1759, à l'époque de la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre, jusqu'à 1840, jusqu'à l'acte d'union 1841 et la période de l'acte d'union qui suit après ça jusqu'à 1867. Donc, les dates marquantes, c'est évidemment la conquête en 1759. En 1763, c'est la première constitution qui s'applique au Québec. Mais par constitution, on entend... Juste, on explique une façon de fonctionner. Mm-hmm. Bon, c'est pas une constitution comme on a aujourd'hui avec des centaines d'articles. Ensuite, en 1774, c'est l'acte de Québec. En 1791, l'acte constitutionnel. Ensuite, l'insurrection des patriotes en 37-38, le rapport Durham et l'acte d'union qui suit le rapport Durham. Alors, comment tout ça a évolué? Après la célèbre bataille des plaines d'Abraham qui a lieu en 1759 à Québec entre les Français et les Anglais, puis la capitulation de Montréal par les Français en septembre 1760, le régime français fait place au régime anglais. C'est ce qu'on désigne aujourd'hui comme la conquête.
Et c'est ce qui fait que nous, Français, on nous haït encore un petit peu.
Ouais. Voilà. Non, j'ai rien dit, mais c'est parce que je connais un peu le truc quand même. À cette époque, la Nouvelle-France devient donc colonie britannique au même titre que la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La conquête met en place un tout nouveau régime. Les Anglais prennent le contrôle de tout le territoire et établissent évidemment leur façon de gouverner. Le 7 octobre 1763, une première constitution est instaurée par proclamation royale pour, et là, the province of Quebec. On parle de the province of Quebec. Et on parle pas du tout de la province de Québec.
Non, c'est ça.
Le nouveau nom de la colonie, c'est ce, le nouveau nom de la colonie. La proclamation royale met en place des institutions politiques conformes à la tradition britannique. Comme sous le régime français, le gouverneur de Québec représente le roi, mais il joue un rôle administratif beaucoup plus important, puisque sous le régime français, il y avait également l'intendant. Mais ce poste-là disparaît, c'est le gouverneur qui jumelle les deux. Cependant, en 1774, et là c'est intéressant, près de 11 ans plus tard, une proclamation royale est remplacée par l'acte de Québec en français. C'était pas Act of Quebec, c'est l'acte de Québec. Parce que 1776, c'est la Révolution américaine. Et on sentait que ça s'en venait, l'insurrection américaine. Donc on voulait s'attacher, les Canadiens français, pour être sûr qu'ils ne rejoignent pas l'insurrection américaine.
Ah!
Et les francophones, la Nouvelle-France, les Canadiens français seront les seuls à bénéficier dans tout l'Empire britannique des avantages dont je vais vous parler. Ça remet en vigueur l'acte de Québec, les lois civiles françaises, ça reconnaît officiellement la langue française et la religion catholique et permet la participation des Canadiens d'origine française au gouvernement civil de la colonie, ce qui ne se faisait pas ailleurs dans l'Empire britannique. Alors, la déclaration d'indépendance américaine a pour effet d'introduire un grand nombre de loyalistes, ce sont les fidèles américains, qui s'en venaient au Canada pour être fidèles, qui voulaient continuer à être sous la gouverne du roi d'Angleterre.
C'était qui à l'époque?
À l'époque, c'était George III.
Bravo.
George III. Le roi fou. On a fait le film, là, Le roi fou.
Oui, effectivement.
De Mad King.
Oui, tout à fait.
Hélène Mirren jouait dans ça, d'ailleurs. Merveilleuse comédienne.
J'adore votre culture, histoire.
Alors, ils s'établissent dans Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et au Québec. Et plusieurs d'entre eux s'établissent d'ailleurs le long du fleuve Saint-Laurent et sur les rives du lac Ontario et Érié. Avec cette arrivée massive de loyalistes, l'acte de Québec devient un peu vite inapplicable puisque ces derniers réclament un système parlementaire auxquels ils sont habitués, et des lois civiles anglaises. Alors, on va à ce moment-là vers l'acte constitutionnel de 1791. L'acte constitutionnel n'abolit pas l'acte de Québec, mais il y introduit quelques amendements. La nouvelle loi divise le territoire canadien en deux colonies, le Bas-Canada pour les Français et le Haut-Canada pour les anglophones.
Ah, c'est de cela, Canada. Non, j'ai rien dit.
Elle est un peu endiablée ce matin.
Non, ben c'est l'été, mes amis.
Alors, la loi de 1791 introduit le parlementarisme au Canada, mais pas la démocratie. Oui. Ça, c'est vraiment une nuance. La liberté de religion est maintenue, mais la loi prévoit également l'établissement de l'Église anglicane. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, en Angleterre, c'est la région anglicane qui est religion d'État, et tout ce qui est catholique est vraiment interdit. Alors, ça a fait vraiment des vagues là, quand on a permis ça à l'ancienne Nouvelle-France, à la colonie du Québec. À cette époque, la province du Bas-Canada, donc les Français, comptent 160 000 habitants, dont 20 000 anglophones. Alors, évidemment, là, il y a l'évolution du Bas-Canada. Le Canada, il y a toute une série d'événements qui se sont produits. Cohabitation assez pacifique, c'est-à-dire qu'on s'entend, mais il y a quand même des différences au niveau de la langue surtout, parce que les anglophones veulent bien prendre le contrôle du Canada, mais les anglophones, les francophones sont en majorité.
Oui.
Alors évidemment, ça amène des tensions. Et là, on s'en va...
Déjà.
Et là, on s'en va vers l'insurrection des Patriotes de 1837-38.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, le gouverneur avait le contrôle des dépenses.
Oui.
Et les francophones, à ce moment-là, étaient désavantagés. Alors, est arrivée l'insurrection de 37-38. Londres a toujours refusé à ce moment-là de transformer le conseil législatif qui était nommé en organe électif, qui était une revendication des patriotes. Alors, évidemment, les patriotes, la révolution, cette insurrection est arrivée à Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache. Répression terrible, des villages brûlés, population molestée, femmes et enfants jetés dans leur demeure aux portes de l'hiver. Plusieurs patriotes se réfugient aux États-Unis et songent à prendre la lutte. En février 38, dirigé par Robert Nelson, il proclame même la République du Bas-Canada.
Ah oui.
Ben, qui n'a pas fait long feu, là. Et ils invitaient les volontaires américains à se joindre à eux. Alors, évidemment, suite à ça est arrivé le fameux rapport Durham.
Oui.
Parce qu'on a mandaté ce monsieur-là pour dire, ben, comment peut-on régler cette situation-là?
Oui.
Alors, après un séjour de 6 mois dans le Nouveau Continent, Durham présente son rapport au gouvernement anglais. Ben, il disait à ce moment-là, il faut assurer une majorité anglaise et loyale, angliciser les Canadiens français, qui disaient qu'ils n'avaient pas d'histoire. Et il disait qu'ils n'avaient aucune chance de survivre en Amérique anglo-saxonne. Et on voulait établir également la responsabilité ministérielle. Et on parle également de...
Qu'est-ce qui vous fait rire?
C'est parce que c'est tellement énorme. C'est qu'on parlait de ce groupe de francophones-là, de 160 000 personnes, comme un groupe culturel momifié qui entrave l'essor du Canada. Alors évidemment, on vote l'acte d'union qui unit les deux, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Et là, à ce moment-là, ben, les francophones sont en majorité, mais les lois sont... en faveur de la langue anglaise, tout ça. Alors, évidemment, la représentation parlementaire n'est pas la même, tout ça. Alors, ça a débouché sur une série de mésententes, qui, on s'en va tranquillement à ce moment-là, de 48 à 67, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner.
Exactement.
Alors, on s'est rendu compte à ce moment-là vers la Confédération de 1867, dont je vais vous parler à la prochaine chronique, le 12 juillet.
Le 12 juillet.
Je pense que c'est ça qu'on avait dit.
Mais il me semble, écoutez, je n'ai pas l'agenda sous les yeux, mais il me semble bien que c'est effectivement un 12 juillet. Merci beaucoup, mon ami Serge Bradet, fort intéressant. On s'en va en musique un petit 2 minutes, et juste après, je vais m'entretenir. On va parler littérature avec mon ami Gérald Cousineau. Thank you. Miles Davis, ça se prend bien. Hein? Mm-hmm. À toutes les heures du jour et de la nuit, ça se prend bien. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Alors généralement, on vous entend dans le cadre de l'émission des livres plein les oreilles, mais vous avez accepté très gentiment de participer aussi à M l'été. Et en plus, vous m'avez dit, mais je veux être en studio, moi. J'aime ça, sentir le pouls du
oui,
studio.
Oui, c'est vrai. Ça me rappelle tellement de beaux souvenirs.
C'est vrai. Hein? Je dois préciser aussi que vous êtes chroniqueur sur la chaîne de télévision Ami. On va vous retrouver, je pense, dès le mois de septembre.
Oui.
C'est bien ça?
C'était la dernière hier et
d'accord.
Ça reprend en septembre.
Alors, nous, on vous a pour l'été et on est bien content. Alors, chronique littéraire, vous nous arrivez avec... Je vous laisse dire le titre vous-même.
Elle rit
parce
déjà.
Que... Non, c'est parce que je voudrais vous dire que je lui ai demandé des choses à Gérald, estival, léger, voilà. Alors, le titre du livre, Gérald?
Alors, ça s'appelle « Joyeux suicide et bonne année ».
Youpi!
D'une écrivaine que je ne connaissais pas, Sophie de Villenoisy.
En fait,
elle est journaliste, écrivaine et scénariste, et elle aurait publié quelques albums de bande dessinée. Donc, ça s'appelle « Joyeux suicide et bonne année », paru en 2016, et on peut trouver ça au SQ. Là, c'est pas très gros, hein, c'est 170 pages, à peu près 4 heures d'écoute.
Mais c'est de la belle rigolade quand même. Il faut tout de suite qu'on précise qu'on rigole beaucoup
dans
ce bouquin.
Et le titre est accrocheur, évidemment.
Oui,
donc,
ben oui.
Nous sommes avec une certaine... Oh, je souligne avant de l'oublier, l'excellente lecture de Francine Fontaine.
Bon.
Avec un petit brin d'impertinence qui n'est pas désagréable du tout. Donc, nous sommes avec Sylvie Chabert, 45 ans, qui est une très sérieuse juriste d'entreprise et qui est en pleine dépression depuis la mort de son père. Sa mère est déjà morte. Et là, elle pense plus ou moins mettre fin à ses jours. Elle n'en est pas sûre, mais c'est pas gai. Hein. Et vraiment, c'est pas gai. Sa vie n'est pas gai du tout. Et un jour, en se baladant dans Paris, voit un homme dans la Seine, un homme qui s'est jeté dans la Seine. Alors, je dis ça parce que ça va bien rendre son caractère. Alors, elle est la seule qui veut applaudir le noyé.
Oui.
Alors que tout le monde, évidemment, applaudit la femme qui s'est jetée à l'eau pour le secourir.
et j'ai même un petit extrait, si ça vous tente,
oui.
Parce que
d'accord.
J'ai l'extrait exactement. Alors, on dit dans le livre, alors, le petit attroupement se met spontanément à applaudir la jeune femme. Bravo, madame. Heureusement que vous étiez là. Et tous célèbrent joyeusement cette victoire sur la vie. Sans l'intervention de cette femme, il serait mort à quelques brassées de nous, complètement engourdi par ce qui vient de se passer. Et là, c'est donc cette femme qui parle. Je réalise que je suis la seule à vouloir applaudir le noyé et je l'envie d'avoir eu le courage de sauter.
Eh bien, cette mésaventure, si on veut, c'est une révélation.
Oui.
Elle décide vraiment de mourir et elle le fera à Noël, c'est-à-dire dans 2 mois et demi à peu près. Mais entre-temps, elle va quand même consulter un psy. Et le psy va la forcer à vivre des choses qui vont à l'encontre tout à fait de sa personnalité.
OK.
Par exemple, elle commence par s'offrir une épilation intégrale. Et là, on a droit à une scène assez hilarante. Elle arrive, elle demande à la jeune fille qui va
pratiquer
l'opération, est-ce que je me mets toute nue? Alors déjà, on voit le sourire de la jeune fille, de l'employée, qui elle est super, un top modèle. Alors, et elle ressort de l'institut sur un brancard, tellement ça l'a bouleversée. Ce sont des pompiers qui la sortent de l'institut sur un brancard. Bon, alors elle parle à son psy. Deuxième chose, elle qui est raisonnable depuis 45 ans, va commettre un vol dans un monoprix. Et là, c'est le calvaire, c'est la catastrophe. Elle réussit à dissimuler un produit dans son manteau, mais elle en achète plein d'autres. Elle panique à la caisse, elle laisse là la moitié de ses achats et s'en va. La caissière, bien sûr, n'y comprend absolument rien. Et là, autre étape à franchir, elle veut trouver un amant pour une nuit.
Ah.
Bon. Là, elle en parle à son assistante, Laura. Laura est très bonne, bien sûr, Internet, donc elle va lui trouver quelqu'un. Elle lui arrange un rendez-vous. Le monsieur s'appelle Eric. Et là, à peine installée dans le bar-resto, elle lui dit tout à trac comme ça, « Moi, j'ai pas de culotte. » Alors, disons que ça arrête la conversation. Alors, ils vont passer la nuit ensemble.
quand même.
Et là, elle se demande, bien sûr, « Est-ce ma dernière nuit d'amour avant le suicide, là? »
Oui, parce que du coup, ça lui a redonné le goût, peut-être.
Oui.
Mais ça a réveillé en elle.
C'est bon, comme elle dit, c'est bon de se sentir vivante.
Oui.
Mais là, il arrive quelque chose, et c'est à peu près à la moitié du livre. Là, il y a une rencontre capitale. Là, on n'est plus dans la comédie. Elle rencontre sur le quai du métro Parmentier, à Paris, bien sûr, une SDF couchée par terre, dans son urine, parce que d'ailleurs, elle dit l'odeur de pisse était insoutenable. Mm-hmm. Et là, bon, elle se rend bien compte que la SDF est en train de mourir. Elle va lui prendre la main et elle va se mettre à chantonner. Et elle dit elle-même, « Je chante pour l'enfant qu'elle a été et pour celui que je n'ai jamais eu. »
Oh, c'est beau.
C'est très beau. Mm. Et là, il y a comme vraiment un déclic. Mm. Malheureusement, la SDF va mourir à l'arrivée des pompiers. Mais là, on sent tout de suite que, voilà, sa vie va être chamboulée. Ouais. Et là, je ne vais pas en dire trop, mais je vais quand même parler de ce déclic-là parce que vraiment, ça agit comme une catharsis. Et là, c'est comme si la SDF était morte à sa place.
Ah oui.
Alors, parce qu'elle va aller la voir à la morgue, elle va dire, mon Dieu, ça aurait pu être moi, ce cadavre-là. Alors, elle va s'occuper de la SDF, elle va lui acheter des vêtements, et à un prix exorbitant, vous savez, à Paris, les vêtements, hein, de beaux vêtements, elle va habiller la SDF, elle va lui acheter un cercueil, tout ça, vraiment.
Wow.
Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on va passer de la comédie au sérieux, mais là, on est dans l'émotion pure. Là, parce que cette femme-là qui se trouvait quelconque, transparente, moche, qui s'habillait mal coiffée, eh bien là, le simple fait de s'être comme prise en main, parce que je ne l'ai pas dit, mais avant de rencontrer le fameux Eric, elle va s'être habillée, beaucoup plus à la mode, elle va se coiffer, elle va aller chez le coiffeur, et là, on va la toucher. Mmh. Encore une scène importante. Mmh. Elle, qu'on ne touche plus, on la touche, elle va dire « Même un chien a plus de caresses que moi. »
Oh, oui.
Alors, on voit à quel point elle était rendue loin dans sa solitude.
J'ai aussi d'ailleurs un tout petit extrait où elle dit « Je suis gravement carencée en amour et aucune vitamine, aucun complément alimentaire ne pourra me doper. J'en suis réduite à me nourrir des miettes de tendresse que l'on veut bien me donner. »
Elle
c'est joli, hein?
Ah oui, elle dit quelque part aussi.
C'est une belle écriture, hein?
Oui, je suis périmée. Elle va dire ça, je suis périmée. Comme si la date de péremption était à, elle n'a que 45 ans.
Oui.
Mais elle est seule. Elle dit d'ailleurs, je ne suis plus la fille de personne, je ne suis la femme de personne et je ne suis la mère de personne.
Mm.
Donc, c'est comme si elle était triplement seule. Donc, ce roman, contrairement au titre, c'est un petit roman absolument pétillant.
Alors, allez vous chercher. Oh, pardon, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que vous avez
dit? C'est un petit roman pétillant et au début, on parle beaucoup de solitude, mais en fait, c'est un antidote à la solitude.
Ouais, c'est
un hymne à la vie et c'est raconté avec humour et impertinence. C'est vraiment extrêmement agréable à écouter.
Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy, que je vais vous épeler, V-I-2-L-E-N-O-I-S-Y, qui nous était présentée ce matin, ce midi, à l'émission Aime l'été par Gérald Cousineau. Gérald, que du bonheur encore une fois.
Ah, au plaisir.
À bientôt. Hein, oui. Et puis continuez à bien lire pour nous surtout.
Oui.
Délicieuse petite guitare hein, que vous allez entendre tout l'été pour annoncer cette émission-là ou alors un petit pont, une petite transition avec ma prochaine invitée à l'émission Aime l'été. Ma prochaine invitée, elle est arrivée en studio, c'est Caroline Soriol. Bonjour Madame Soriol.
Bonjour.
Caroline, vous êtes directrice générale des Petits Frères. Et on aurait tendance à dire tout de suite des pauvres, mais on l'a enlevé, le des pauvres, hein, assez récemment.
Oui, tout à fait. Il y a environ 5 ans, dans le cadre de notre 50e anniversaire, parce que notre accompagnement se fait auprès des aînés de 75 ans et plus qui souffrent d'isolement. Et donc, les pauvres, c'était un nom historique pour nous, mais qui, en fait, nous envoyait dans une direction erronée là, par rapport à l'accompagnement qu'on fait auprès des aînés.
Et vous me disiez, Mme Soriol, et c'était très, très joliment dit, hors d'onde quand vous avez entendu Gérald Cousineau nous parler de ce livre, que c'était... On mettait la table, finalement, pour vous, parce qu'il parlait, entre autres, de cette SDF qu'on trouve dans le métro, et donc est une personne âgée qui est démunie. Vous travaillez spécialement pour ces gens-là, hein, pour les personnes âgées isolées.
Oui, mais en fait, c'était surtout l'héroïne du roman que je trouvais, parce qu'elle avait 45 ans, mais elle disait « je ne suis la femme, je ne suis la mère de personne ». Et c'est malheureusement la situation d'un trop grand nombre d'aînés au Québec. Il y a eu toutes sortes de parcours de vie là, qui peuvent mener à l'isolement des aînés, mais nos aînés, il y a un très grand nombre d'entre eux qui aujourd'hui sont veufs, n'ont pas eu d'enfants ou leurs enfants vivent dans d'autres pays, un éloignement géographique. Et donc, il y a 7 à 9 % là, des aînés qui souffrent de solitude sévère, ce qui veut dire qu'ils ne reçoivent aucun coup de téléphone, aucune visite sur un espace là, d'au moins un mois, voire même une année. Ouf. Et ça, c'est une souffrance absolument terrible. Et quand on a 45 ans, comme l'héroïne, peut-être qu'on peut changer sa vie, hein, on peut changer des choses. Mais quand on a 88 ans et qu'on a des enjeux de mobilité, d'audition, et qu'on est confiné à un appartement, on est vraiment victime. Là, la solitude et cette souffrance, elle nous arrive et c'est très difficile de pouvoir s'en défaire. Et la seule solution, c'est la solidarité que nous pouvons et la générosité que nous pouvons mettre dans leur vie.
Caroline Sauriol, qu'est-ce qui a changé au petit frère? Parce que là, vous célébrez, c'est quoi? C'est le 55e anniversaire en octobre. Et ça a évolué, hein, parce qu'on est obligé d'évoluer avec les besoins des gens. Alors, qu'est-ce qui a tant changé au sein des petits frères?
Ah ben je vous dirais que c'est très important pour nous de rester très fidèles à l'esprit de notre fondateur qui est Armand Marquiset, qui a fondé les Petits Frères des Pauvres à Paris en 1946 pour venir soulager la souffrance des aînés. Et on est très, très fidèles à son esprit qui est, avec notre devise, là, des fleurs avant le pain. Alors pour nous, on apporte la joie, la vie, l'affection, la tendresse dans la vie des aînés, en complément, bien sûr, des services dont ils ont besoin et que les institutions peuvent leur offrir. Et ça, nous, on est très, très fidèles à ça. Mais au cours, disons, des 5 ou 10 dernières années, nous, on a connu une croissance importante. On est présent maintenant dans 15 villes au Québec. On est présent dans 11 régions de Rimouski à Saguenay, à Thetford, etc. On accompagne près de 1400 aînés qui sont en situation de grande solitude et on a presque 2000 bénévoles pour assurer cet accompagnement-là. Alors, d'une part, on est très fidèles à notre mission de base, mais aujourd'hui, on le fait dans un contexte avec des bénévoles, des profils de bénévoles qui ont beaucoup évolué. Mais nous, notre capacité, c'est celle de mettre en action la générosité des gens pour changer la vie des aînés qui sont isolés.
Alors, le 30 juin... Il y a la campagne, j'adore ce titre, « Aimons jusqu'au bout » qui va se terminer. Quel était le but de la campagne? Bien sûr, on le connaît, mais comment s'est passée d'abord cette campagne et quelle en était la teneur?
En fait, pour nous, c'était une façon de mettre la question de l'isolement au goût du jour, hein, de la mettre sur la place publique, de susciter une adhésion, un mouvement de solidarité. Alors, par le biais de 3 images et de 3 messages, donc on a une dame de 80 quelques années habillée en robe de mariée. À côté, c'est écrit « J'ai été aimée. Aujourd'hui, je vis sans amour. » On a un coach de baseball, un monsieur de 80 quelques années, qui dit « J'ai inspiré des jeunes et aujourd'hui, je vis oubliée de tous. » Et la troisième, qui est une dame aînée, habillée en infirmière, qui dit « J'ai pris soin des autres et aujourd'hui, je vis sans réconfort. » Alors, ce sont 3 emblèmes de la campagne.
3 images très fortes.
3 images très fortes qui sont magnifiques aussi, mais qui viennent susciter l'émotion chez les gens parce que l'isolement des aînés, on aime mieux pas trop n'entendre parler. Ça nous fait peur. On a peur que ça nous arrive. C'est quelque chose où on se dit « Comment ça marche? » Pourquoi ça leur arrive? Peut-être qu'ils sont pas fins. Il y a toutes sortes de tabous par rapport à ça. Et les gens qui souffrent d'isolement sont aussi très gênés de dire, moi aujourd'hui, est-ce que j'ai raté ma vie parce que je suis seule et que personne ne m'aime aujourd'hui? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'allongement de la vie, avec le fait qu'on vive plus vieux, on est aussi plus entouré de décès, de deuil et de pertes. Et cette solitude-là, elle nous arrive. Alors avec notre campagne... On a voulu moderniser un peu ce message-là. On a voulu frapper le cœur et la tête des gens et susciter une vague de solidarité. Et donc, dans la campagne, on demande aux gens de signer une déclaration commune. Et on a environ 7500 signataires en date de ce jour. On en est très contents parce que les petits frères, bien, vous le disiez vous-même, on parle des petits frères des pauvres, c'est une vieille affaire. Mais on a toute la force de nos 55 ans d'existence, toute la compétence cumulée. Mais aujourd'hui, avec cette campagne, on vient dire qu'on est notre cause, elle est malheureusement une cause d'actualité et qu'on a besoin de l'appui de tout le monde si on veut vraiment changer cette situation sociale.
Et alors, je vais tout de suite donner, parce qu'il est encore temps, évidemment, puisqu'on a jusqu'au 30 juin pour la signer, c'est aimonsjusqu'aubout.ca. Hein, c'est tout bête, c'est là qu'on peut signer cette pétition-là, aimonsjusqu'aubout.ca. Non seulement il faut la signer, mais il faut la partager aussi.
Absolument, parce qu'on veut aller chercher le plus de signataires. On veut vraiment créer une sensibilisation et une mobilisation. Et quand on parle d'aimons jusqu'au bout, on fait référence autant à nous, chacun d'entre nous, posons une action, allons au bout. Passons de l'idée vague que oui, il y a de l'isolement, à poser un geste concret. Parce que dans un sondage léger qu'on a réalisé au tout début de la campagne, on a vu que seulement une personne sur six serait prête à poser un geste pour changer cette situation et contribuer à cette cause. Donc, la signature, c'est un moyen de poser un premier geste d'adhésion.
Les vieux amis.
Si.
Qu'appelez-vous les vieux amis?
Ah, bien, ce sont les personnes que nous accueillons dans la famille des petits frères. Donc, ces aînés isolés qui ont 75 ans et plus et qui souffrent d'isolement, quand on entre dans leur vie et quand ils entrent dans la vie de l'organisme, on s'engage auprès d'eux pour le reste de leur vie. Mmh. On leur dit, nous veillerons sur vous, nous vous accompagnerons pour toutes les années qui vous restent. Et pour nous, c'est un passage important. Et on ne va pas les appeler nos tantes, hein? on ne va pas les appeler nos cousins. Alors donc, on a un terme qui s'appelle les vieux amis, mais avec un V majuscule et un A majuscule. C'est un titre honorifique pour marquer leur présence et leur place très importante dans la famille des petits frères. Et donc, ils ont adhéré à quelque chose, mais nous, ils font partie de notre famille et on va les aimer jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de leur vie.
Et bien sûr, Madame Sorial, vous avez toujours besoin de bénévoles.
Et on a toujours besoin de dons aussi. Si on peut changer la vie des aînés, c'est grâce à des gens qui ont envie de s'engager bénévolement, à donner de leur temps, à entrer en relation avec les aînés. Et cette action n'est possible aussi qu'avec l'appui financier du grand public. On ne vit qu'avec moins de 5 % de subventions gouvernementales. Donc, c'est vraiment grâce à la générosité des auditeurs et de tout le grand public qu'on peut continuer à mener cette action.
Le site Internet, les petits frères, simplement. .ca, au pluriel. Caroline Sorial, je rappelle que vous êtes directrice générale des Petits Frères. Je vous remercie beaucoup. Vous avez une énergie et lorsque vous arrivez en studio, c'est un véritable soleil qui débarque là et je trouve ça fantastique pour les personnes âgées qui nous écoutent. Alors, merci beaucoup d'être à la tête de ça puis de les aider autant.
Mais merci de m'avoir invitée.
Mais je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Détruira le monde par amour du corps. شوب لحب الحب هو المجد تقع الصدقة
il présentait hein, cette reprise de la chanson Aimons-nous. Merci beaucoup Jean-Sébastien qui fait le choix musical de cette émission. C'était franchement à propos. Il y a quelque temps, un professeur titulaire au département d'économie de l'Université Laval, Charles Belmar, a littéralement jeté un pavé dans la mare et nous ici sur Canal M, on s'en est réjouis et j'en ai abondamment parlé notamment dans l'émission Par Actualité. Et je tenais à tout prix, Monsieur Belmar, à vous avoir au téléphone. Charles Belmar, bonjour.
Bonjour madame.
Monsieur Belmar, vous avez révélé, donc vous êtes au départ à l'origine d'une étude. Je voudrais d'abord que vous nous présentiez cette étude et ensuite qu'on discute ensemble de ce qu'elle a révélé, s'il vous plaît.
Parfait. Donc, c'est une étude qui s'insère dans un projet de recherche plus global qui vise à comprendre les facteurs qui limitent l'insertion en milieu de travail des personnes avec des incapacités. Et un des volets du projet consistait à essayer de mesurer si les personnes en situation d'incapacité, dans notre projet, c'était des personnes qui se déplaçaient en fauteuil roulant, étaient victimes de discrimination lorsque venait le temps de trouver un emploi.
Un emploi. Vous y êtes pris comment, M. Belmar?
Donc, il existe une méthode pour mesurer la discrimination qui est très bien reconnue dans le domaine scientifique, qui s'appelle la méthode du testing, qui consiste à distribuer en réponse à des vraies offres d'emploi, des candidatures fictives.
Okay.
C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons répondu approximativement à 1500 offres d'emploi dans les régions métropolitaines de Québec et de Montréal.
Avec des lettres de motivation, tout y était?
Oui, chaque candidature contenait une lettre de motivation et un curriculum vitae proprement dit.
Est-ce que handicap était donc déclaré?
Oui, d'accord. Donc un certain pourcentage des candidatures envoyées contenaient dans la lettre de présentation une mention indiquant que la personne se déplaçait en fauteuil roulant et que ceci n'affectait nullement sa productivité.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
Et évidemment, certaines candidatures ne mentionnaient pas cette mention. Et donc, notre stratégie pour identifier la discrimination avec cette méthode de testing consiste d'agréger, de calculer le taux de convocation à des entrevues avec ou non cette mention, bien sûr en contrôlant pour les autres facteurs comme le type d'emploi et l'expérience qui est également indiqué dans le curriculum vitae.
Alors, M. Belmar, ce qui est fantastique avec cette étude, alors ce qu'il y a un peu moins, évidemment, ce sont les chiffres que cette étude révèle, on va en parler tout de suite, mais ce qui est bien, c'est que ça a vraiment lancé un pavé dans la mare. Il me semble que tout d'un coup, les médias se sont mis à réaliser l'ampleur, je dirais presque de la catastrophe que c'est, à quel point on n'engage pas encore suffisamment les personnes handicapées. Alors parlons chiffres, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça a révélé?
Donc, à travers, en agrégeant toutes nos données, on obtenait qu'une candidature qui ne portait pas la mention avait une probabilité d'à peu près 30 à 31 % d'être convoquée à une entrevue, alors que la simple mention réduisait cette probabilité-là à 14 %, donc c'est vraiment la moitié du taux de convocation. C'est des chiffres qui sont assez importants, donc l'écart en particulier, parce que c'est important aussi pour nous de voir ce que cet écart-là, comment ça se comparait à d'autres formes de discrimination qui avaient été mesurées, encore une fois, avec le même genre de méthode.
Oui.
Et bien que le fait qu'il y ait de la discrimination à l'endroit des personnes en situation d'incapacité existe, n'est pas nécessairement surprenant. Ce qui était surprenant, c'était de voir que l'ampleur de l'écart mesuré dépassait ce qu'on avait observé au Canada, entre autres pour la discrimination basée sur l'origine ethnique, ou la discrimination basée sur les différences entre hommes et femmes. Et donc, c'est cet effet relatif qui nous a vraiment frappé et qui nous a dit que on parle vraiment de personnes qui devraient, en principe, avoir beaucoup de difficultés, effectivement. Disons que la marche à passer là, pour trouver un emploi est assez important.
Et le pire, c'est que j'ai lu plusieurs papiers qui faisaient état de votre étude, mais il y a des fois où vous indiquiez dans les CV que ces personnes-là pouvaient bénéficier de mesures d'aide, notamment un contrat d'intégration au travail.
Absolument.
Et que ça procure de l'argent, une aide financière à l'employeur. Oui. Donc, on aurait pu penser que ça aurait été un incitatif, mais pas tant que ça, finalement.
Oui, exactement, parce qu'il y a plusieurs raisons pourquoi une entreprise peut ne pas vouloir, évidemment, employer une personne en situation d'incapacité qui se dépasse en fauteuil roulant. Ça se peut peut-être qu'elles ne veulent pas avoir ces personnes-là. On parle de discrimination pure. Ça peut également être tout simplement qu'elles n'ont pas, disons, un environnement, les lieux physiques sont adaptés à recevoir ces employés-là. Évidemment, il y aurait des coûts supplémentaires à supporter pour intégrer ces personnes-là. Donc, évidemment, en mentionnant que à l'employeur que les coûts ne seraient pas aussi élevés qu'il pourrait peut-être l'anticiper. On espérait ou on espère que ce genre de mesures-là pourrait réduire cette discrimination. Or, les résultats de notre étude semblent suggérer que ce n'est pas le cas. Évidemment, peut-être que la mention de la subvention peut peut-être signaler un niveau d'incapacité plus important. C'est peut-être ce que les employeurs ont perçu. Aussi qu'ils ont souvent ignoré cette information-là dans la mesure où ils ont observé que la personne se déplaçait en fauteuil roulant.
Monsieur Bellemare, quel a été le taux de non-réponse? Parce que j'imagine que sur 1500 CV, est-ce que c'est mesuré, ça, le non? En fait,
non, mais la non-réponse est vue comme étant une non-entrevue.
D'accord, hein, d'accord.
Donc, nous avons mesuré principalement les taux de convocation.
Cette étude, elle s'inscrivait dans le cadre d'une initiative créée par qui, M. Bellemare?
C'est par nous. Moi, je pilote un projet qui a été financé par deux des principaux fonds fédéraux qui financent la recherche au Canada. Et le CRSH et IRSC. Et c'est un programme qui s'appelle Santé et productivité au travail.
D'accord.
Et nous sommes une des 20 équipes au pays qui a reçu du financement dans le cadre de cette initiative-là. Et notre objectif, le plus important de tout le projet, c'est d'essayer de comprendre et d'en arriver à développer des politiques publiques qui favoriseraient l'intégration en emploi de ces personnes-là. Et évidemment, pour comprendre et faire des recommandations, il faut aussi comprendre ce qui se passe, la réalité sur le terrain.
Oui, bien
sûr. Et documenter la discrimination, excusez-moi, c'était bien sûr une des dimensions importantes. Mais nous avons aussi d'autres volets qui sont en cours là, pour essayer d'approfondir la question.
Donc, j'imagine que les personnes concernées pour faire avancer ces dossiers ont dû prendre connaissance avec beaucoup d'intérêt des résultats de cette étude, pas seulement les médias.
Non, effectivement. En fait, cette semaine, nous avons eu une rencontre au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Oui.
Nous avons parlé avec leur direction de la recherche, avec des représentants d'Emploi Québec.
Oui.
Ils sont tous très intéressés par nos travaux, par nos résultats.
Oui.
Bien que les résultats ne sont pas nécessairement encourageants, mais à tout le moins, ça donne des pistes de réflexion.
Oui, absolument. Et vous savez, M. Bellemare, en plus, il y a parfois des... Il ne faut pas non plus lancer la pierre, je trouve, trop aux employeurs. Voyez-vous, j'ai ouvert cette émission tout à l'heure avec un employeur qui emploie déjà plusieurs centaines de personnes aux prises avec une déficience intellectuelle. Et là, c'est Emploi Québec qui ne veut plus payer pour qu'il puisse aller en chercher une centaine d'autres. Alors, lui, il ne demande que ça, mais Emploi Québec, ça leur coûte un peu trop d'argent. Alors, il y a encore beaucoup de travail de fond à faire, mais au moins des études comme les vôtres vont faire avancer, je l'espère, la machine, quoi.
Mais c'est ce que nous espérons, et nous espérons surtout que ça va centrer le débat sur des problèmes de fond.
Oui,
Et clairement, les questions de perception semblent être vraiment présentes, et ce que j'avais aussi mentionné dans un des reportages qui avait été diffusé à Radio-Canada, était que si on ne s'attaque pas à ces problèmes de perception-là, que l'efficacité des politiques publiques peut être grandement affectée.
Oui, en effet.
Donc, dans notre esprit à nous, pour l'instant, ce serait une des premières étapes, c'est de sensibiliser clairement la population au fait que ce sont des personnes tout à fait aptes
à
travailler et que... Ouais. On devrait leur donner une chance.
Alors, étude très importante, c'est la raison pour laquelle, M. Charles Bellemare, je tenais à tout prix à vous inviter à cette émission MLT. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là.
Un grand merci, madame.
Mais je vous en prie, et passez une très belle journée. Et bonjour à toute votre équipe autour de vous, parce que vous n'êtes sûrement pas tout seul. Hein?
Non, effectivement, nous sommes nombreux. Un grand merci.
Je vous en prie, au revoir, M. Bellemare.
Au revoir.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors l'orage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là. La java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa, un solo de batterie, là, la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et moi-ci à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit go man, la java dit go home. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage en l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java les mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Eh bien, ça fait plaisir d'entendre du Claude Nougaro si bien repris. Là, c'était par Andrea Linze. Vraiment superbe, le jazz et la java sur Canal M et l'émission M l'été qui tire à sa fin. Mais avant de vous quitter, j'ai quelques nouvelles en rafale à vous donner. D'abord, amateur d'art et d'histoire, comme en juin et depuis plus de 2 ans déjà, il y a 2 propositions de visite guidée pour les non-voyants et malvoyants qui nous sont faites pour juillet. D'abord, le mardi 4 juillet à 14h. Le musée Stuart nous attend non seulement pour nous faire remonter dans le temps géographique, nous dit Nicole Trudeau, et historique, mais pour nous faire marcher l'environnement extérieur et intérieur du musée et découvrir sa richesse. C'est aussi une façon de célébrer le 375e anniversaire de Montréal. De plus, le site du musée sur l'île Sainte-Hélène invite à flâner au bord du fleuve, soit avant, soit après la visite et à profiter de la saison estivale. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le mardi 18 juillet à 13h, le Musée des Beaux-Arts de Montréal nous propose une visite de quelques trésors des collections, lesquels sont répartis en 6 sections thématiques. Alors, comme à chaque mois, nous sommes invités, attendus et accueillis dans ces 2 musées, le « nous » étant toujours les personnes non-voyantes. Alors, soyons au rendez-vous pour notre plus grand plaisir et enrichissement personnel. On peut s'inscrire. Alors, inscrivons-nous et déplaçons-nous et bénéficions des services qui nous sont offerts, dit Madame Trudeau, pour s'inscrire à la visite du 4 juillet au musée Stuart. On téléphone au numéro suivant, le 514-861-6701. 861-6701. L'adresse du musée Stuart, c'est 20 chemin du Tour de l'Île à l'île Sainte-Hélène. Il est suggéré d'avoir avec soi le numéro de téléphone et l'adresse précise du musée, nous dit Madame Nicole Trudeau. Changement de sujet complètement, modification à l'horaire des services le vendredi 30 juin, congé de la fête du Canada. Tous les services externes de l'hôpital du Suroît seront fermés, incluant le centre de prélèvement pour les prises de sang et la radiologie. L'urgence, par contre, va rester ouverte. Les services du CLSC de Salaberry de Valleyfield seront ouverts de 8h à 20h. Le centre de prélèvement sera fermé. Le CLSC de Beauharnois sera fermé. Le centre de prélèvement, physiothérapie et ergothérapie et imagerie médicale de l'hôpital Barry Memorial seront fermées. L'urgence sera ouverte. Les services infirmiers du CLSC Huntington seront ouverts de 8h à 12h. Le centre de prélèvement sera fermé. Le CLSC de Saint-Chrysostome sera fermé également. La clinique de soins infirmiers du CLSC et centre de services ambulatoires de Vaudreuil-Dorion seront ouverts de 8h à 16h. Le centre de prélèvement et services psychosociaux seront fermés. Le CLSC de Rigaud et de Saint-Polycarpe également. Toute personne avec un problème de santé ou une situation difficile peut joindre le service Info Santé en tout temps, on vous le rappelle, en composant le 811. Donc, je rappelle, ça c'est important, toute personne aux prises avec un problème de santé ou une situation difficile peut joindre le service Info Santé en tout temps en composant le 811. Voilà, ainsi se referme le magazine M l'été. Merci beaucoup à Caroline Soriol, à Gérald Cousineau, à Monsieur Charles Belmar et Serge Bradet. Merci à toute mon équipe également et à Jean-Sébastien La Liberté qui assure le choix musical et la technique de cette émission. Et je vous dis à demain, midi.